Aujourd'hui, à rencontre, l'un des plus grands convertis de ce siècle, André Froissart. André Froissart est l'un des plus étonnants convertis du XXe siècle. D'un seul coup, sans même s'y attendre, il fut comme foudroyé par Dieu. C'était le 8 juillet 1935. André Froissart a raconté 30 ans plus tard son expérience fantastique dans « Dieu existe, je l'ai rencontré », puis dans « Il y a un autre monde », qui est en somme la suite et le complément de « Dieu existe ». Dans l'entrevue que vous allez voir, André Froissart livre d'une façon absolument lumineuse l'essentiel de sa foi chrétienne. Quiconque veut vraiment comprendre ce qu'est le christianisme, quiconque veut essayer de comprendre quel est ce fameux message de Jésus-Christ, en aura l'occasion au cours de cette entrevue exceptionnelle. André Froissart est interviewé chez lui, à Paris, par Marcel Brisebois.
André Froissart, vous avez donné comme titre aux entretiens, au dialogue que vous avez eu avec Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Pourquoi ce titre ?
Ce sont les premières paroles que le pape ait prononcées en prenant ses fonctions sur la place Saint-Pierre en octobre, ce jour d'octobre où je l'ai vu pour la première fois. Ce « n'ayez pas peur » est allé très loin dans les consciences, très vite. Puis on s'aperçoit bien que la peur est quand même le phénomène dominant du siècle ou de la fin de siècle. Tout le monde a peur de tout. Les gens ont peur du présent, ils ont peur, encore plus peur de l'avenir, ils ont peur du voisin, ils ont peur de la rue, il y en a qui s'arrangent même à avoir peur du passé, dans la mesure où ils ont peur d'être dépassés. La peur est le sentiment dominant du moment.
Mais la peur n'est quand même pas un phénomène nouveau. Un professeur du Collège de France, Jean Delumeau, a consacré déjà un ouvrage important à ce phénomène qui, selon lui, était très important pour l'Église, puisque pour une large part, le travail de l'Église s'est opéré à partir de cette peur. Est-ce qu'il n'y a pas justement un renversement aujourd'hui avec ce pape qui dit « n'ayez pas peur » ?
Oui, d'abord la peur, j'ai fait une constatation pratique, utile, ça ne sert à rien. Ça ne change rien à l'événement, ça ne modifie en rien les données du problème, ça ne vous apporte rien, ça vous retire certains moyens de défense innés. Donc c'est un sentiment inutile, au mieux essayer de s'en passer. Quant à la théorie du professeur Delumeau, évidemment, il fait allusion, je pense, à la crainte de l'enfer, etc. C'est un peu particulier aussi à l'enseignement français qui a été très jansénisé, qui est basé non pas sur la crainte de Dieu en tant que don du Saint-Esprit, mais sur la frayeur de l'enfer, ce qui n'est pas du tout la même chose. La crainte de Dieu, c'est quelque chose de beaucoup plus délicat et de beaucoup plus joli. C'est la crainte de lui marcher sur la figure sans faire attention. C'est la crainte de heurter un enfant. C'est la crainte de blesser sa pureté. C'est ça la crainte de Dieu. C'est pas la frayeur devant l'Éternel Tout-Puissant et brandisseur de foudre.
Oui, mais c'est quand même une image qui a marqué tous les chrétiens.
Qui a marqué surtout les Français, parce que les Français ont été élevés dans le jansénisme. Le jansénisme a tout endeuillé en France pendant des siècles. Et ils sont en train de se débarrasser d'ailleurs de ça.
Vous parlez des Français, j'ose vous dire aussi que ce Dieu vengeur, il est aussi présent dans la pensée anglo-saxonne, en particulier chez les puritains.
Oui, je ne sais pas où ils l'ont pris d'ailleurs, parce que moi j'ai beaucoup lu l'Ancien Testament, avec lequel j'ai beaucoup d'affinité par ma grand-mère Schwab. Et je me suis aperçu que Dieu avait plus souvent l'accent de la plainte que celui de la menace dans l'Ancien Testament. Il se plaint de ne pas être aimé et de ne pas pouvoir convaincre les hommes. Et c'est une espèce de long gémissement de l'amour de Dieu
dans
l'Ancien Testament. Oui, déçu. Mais ça n'est pas... Alors évidemment, de temps en temps, il y a des éclairs et des tonnerres et de grandes menaces qui planent. Mais ça, c'est quelquefois nécessaire pour... à ramener les gens à un peu de morale, et qui d'ailleurs n'emploie pas ce procédé en famille. Je connais bien des mères de famille qui ont dit à leur fils, tu continues, je t'étrangle, mais ils ne l'ont jamais fait.
Oui, mais il reste que cette idée de Dieu vengeur a engendré aussi une autre notion extrêmement importante dont vous parlez à la page 218 de votre ouvrage, N'ayez pas peur. La notion de sacrifice. La notion de sacrifice, vous le dites vous-même, est un obstacle actuellement à nos contemporains.
Oui, parce qu'on n'en comprend plus le sens et que malheureusement les gens d'église ne savent plus l'expliquer. Ce qu'on appelle le sacrifice, c'est en Dieu, c'est l'effusion de soi, c'est-à-dire le don de sa propre personne, mais sans réserve, sans retenue d'aucune sorte. Dieu étant infini ne peut pas se détailler ni rien réserver du don qu'il fait de soi-même. Il est don total, donc effusion totale, donc sacrifice permanent. Le sacrifice est le mode d'existence ordinaire de la Sainte Trinité. Le Père se donne, ça produit le Fils qui se restitue au Père ce qu'il en a reçu et qui, à son tour, pour ainsi dire, se vide de sa divinité. Le sacrifice est inhérent à la vie chrétienne, sous cette forme, n'est-ce pas ? On peut dire que si l'amour, c'est ce qui fait exister l'autre, le don que l'on fait de sa propre personne à l'autre le fait exister davantage, et plus le don est grand, plus l'existence de l'autre est grande. Donc le sacrifice est indispensable à la vie chrétienne, mais ça on ne le comprend plus parce qu'on ne l'explique plus.
Peut-être. Puis
on n'en veut plus d'ailleurs. Parce qu'on est devenu égocentrique, parce qu'on est devenu subjectif à un point incroyable, parce qu'on est devenu incapable d'objectivité, parce que le christianisme est à base d'objectivité. Comment l'autre existerait-il si on ne lui laissait pas la liberté de se manifester ou si on ne l'aidait pas à être ? C'est de l'objectivité, c'est-à-dire l'aptitude à laisser l'autre être. Eh bien, maintenant, du subjectif, on rapporte tout à soi. On ne veut plus rien savoir de la contemplation ni de la vie spirituelle telle que Dieu même nous l'a enseigné. Donc, quand vous vivez pour vous-même, autour de vous-même, centré sur vous-même, ça présente pas mal d'inconvénients. Le premier, c'est que ça vous sépare de la vérité. Premier point, parce qu'en vous-même, il n'y a rien. Vous ne faites jamais que prendre connaissance petit à petit de votre néant constitutif, ce qui n'est jamais gai. Et ensuite, vous devenez sujet à la souffrance, parce que toute chose que nous retenons en nous, que nous refusons de donner, c'est ça qui engendre. Je ne parle pas de la souffrance des innocents, je ne parle pas de la souffrance du mal physique, je parle de la souffrance morale, spirituelle. C'est le refus de don qui engendre la souffrance. Ce sont des calculs, des concrétions qui se font à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous font mal.
Je trouve que votre explication est fort intéressante, mais il me semble passer à côté d'une des objections les plus importantes que font nos contemporains, particulièrement l'objection qui porte sur le fait que Dieu, ce Dieu que l'on dit bon, a été si blessé par les péchés des hommes, qui s'est mis en colère, qui n'a jamais pu être satisfait, que finalement, par la mort de l'être qu'il aimait le plus au monde, son propre fils. Et que c'est cette mort de ce fils qui finalement a réussi à l'apaiser, mais provisoirement, parce que voilà que maintenant la Vierge Marie nous dit à la Salette ou à Fatima, vous savez, donnez-moi des sacrifices pour que j'apaise mon fils, etc. De sorte que le sacrifice devient presque la maladie contagieuse qui infecte l'éternité.
Non, on est encore là sous l'influence de Jansénius, alors que nous avons dit à peu près le contraire tout à l'heure, hein. L'effusion de soi est la caractéristique de Dieu. La diffusion et l'effusion. La charité, disait la théologie mystique des temps anciens, est diffusive de soi, n'est-ce pas ? Eh bien, cette manière d'être par effusion est un sacrifice permanent. Mais quand le Christ donne sa vie et meurt dans la passion, et qu'il prononce ces paroles, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il nous fournit la preuve de sa divinité parce que on s'aperçoit que le don est allé au-delà de toute possibilité humaine. Il n'était pas possible d'aller plus loin pour le Christ, s'il est bien le Fils de Dieu, que de renoncer à l'ultime part de lumière éternelle qui pouvait subsister en lui. Eh bien, ce sacrifice de Dieu, il ne faut pas le prendre comme un moyen d'apaiser une colère quelconque, car si la passion est dure, si elle est effrayante, la compassion l'est encore plus. Je veux dire que la souffrance de compassion n'a pas de limite. La souffrance de la passion se trouve limitée par la mort ou l'évanouissement. Elle a des limites physiques, au-delà de quoi il n'y a plus d'efficacité pour une douleur quelconque. Tandis que la compassion est sans fin. Elle vous les élargit à mesure que la souffrance arrive. De sorte que dans ma petite théologie personnelle, la souffrance de Dieu le Père était plus grande encore que celle du Christ.
Souffrance de Dieu.
Oui.
Pourtant, Dieu est dit par la théologie catholique, comme étant celui qui jouit de la béatitude infinie.
C'est ça, oui. Mais il y a une connivence secrète, mystérieuse, entre la souffrance et la joie. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rechercher la souffrance. Parce que si on cherche la souffrance, ça devient un plaisir comme un autre. Ce n'est plus du tout une vertu. Je veux dire que la souffrance et l'élargissement de l'être qu'elle donne, cette ouverture extraordinaire, cette certitude qu'elle apporte dans certains cas, que vous avez aimé, c'est par la souffrance que vous rendez compte que vous aimez, et pas par un autre procédé. Eh bien, ça, c'est sans prix. C'est d'une valeur infinie et ça devient une joie. Vous avez un deuil dans une famille. La plus grande douleur qui puisse arriver à quelqu'un est de perdre un enfant. Pendant des années, c'est une déchirure effrayante. Puis, quelquefois, 10 ans, 20 ans plus tard, tout d'un coup, vous réalisez que si vous souffrez tellement, c'est parce que vous avez aimé. C'est la mesure de votre amour. Et cette certitude d'avoir aimé, c'est un bien inouï. C'est la seule chose que vous emporterez de cette terre. Et c'est déjà de la joie.
Mais quelles sont les conséquences de ça pour la vie concrète d'un chrétien? Comment vivre en chrétien? Quelle sorte d'homme un chrétien peut-il être dans ce monde compte tenu de ce que vous venez de me dire et qui me semble central?
Mais là, il vaudrait mieux demander ça au pape qu'à moi. Il est plus moraliste que moi. Je ne sais pas très bien comment on peut vivre en chrétien. Je crois que la chose essentielle, alors, initiale, première, c'est l'humilité devant Dieu. C'est tout. Il ne demande rien non plus.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'humilité? Ça me semble tellement une vertu dépassée.
Un effacement personnel.
Oui, mais écoutez, moi et les filles, les garçons de ma génération...
Oui, ils sont pas...
Nous avons été...
Il va falloir le devenir.
Oui. On n'a pas été formé à l'humilité. On a été invité au dépassement, on a été invité à la révolte, on a été invité à...
Oui, foutaise. Voilà. La réalité, le physicien et le biologiste, s'il n'était pas humble, qu'est-ce qu'il découvrirait? Si le biologiste n'avait pas l'humilité devant le virus qu'il ne voit pas, s'il ne s'effaçait pas devant l'objet de son travail, il ne ferait jamais la moindre découverte, il ne servirait de rien aux hommes. C'est l'humilité qui est le secret de tout. L'humilité devant l'être. L'humilité devant Dieu, bien sûr, considéré comme l'être des êtres. Et puis, cette faculté d'effacement qui fait que le monde commence à prendre une existence qu'il n'aurait pas autrement. Tandis que si nous continuons à nous refermer sur nous-mêmes et à nous enfoncer dans le subjectivisme, eh bien, nous ne ferons jamais, comme je le disais tout à l'heure, que de prendre de plus en plus connaissance de notre néant. Alors la psychanalyse nous sera d'un grand secours parce qu'il n'y a pas de meilleur descenseur dans le vide que cet instrument-là. Et au milieu de nous-mêmes, il n'y a rien. Nous venons du néant. Le mystique le sait qu'il vient du néant. Il a conscience du néant qu'il représente devant Dieu qui est l'être. Et la conscience de ce néant, eh bien, c'est sa richesse. Le néant du chrétien, c'est sa richesse, car c'est avec son néant que Dieu fait des choses extraordinaires.
Dans le dialogue que vous avez avec Jean-Paul II, vous avez une large part des questions que vous posez tournent autour du problème de la liberté, qui est possible. Mais à partir de ce que vous venez de me dire, j'ose presque vous demander quelle liberté et quelle créativité.
Mais il n'y a pas plus libre que l'effacement. L'effacement vous libère totalement.
Mais
faire abstraction de soi-même, c'est merveilleux, vous savez. Le grand problème de la vie, c'est de se débarrasser de soi.
Mais André Frossard, est-ce qu'on n'a pas justement vu les chrétiens ces derniers temps s'effacer au point de n'être presque plus rien dans la société?
Oh non, c'est un effacement de type politique et circonstanciel, ça n'a rien à voir. Je parle de l'aptitude à la contemplation qui est l'aptitude au divin. Et ça, nous avons tous en nous une ouverture sur l'infini. Nous sommes tous inachevés. Je le dis dans le bouquin, d'ailleurs, c'est ce qui fait la grandeur de l'être humain, c'est qu'il est inachevé et qu'il en a conscience. Il lui manque toujours quelque chose. Un animal est parfait dans son genre. Vous ne pouvez pas ajouter un poil à un renard, il est parfait. Les animaux sont complets et finis. L'homme n'est pas fini, c'est une évidence. Il y a en lui une ouverture, une brèche qui l'ouvre sur l'infini, sur le divin. Et toute l'obsession des systèmes, ou philosophiques, ou politiques, à commencer par les totalitaires, c'est de refermer cette brèche, afin qu'il n'y ait plus de réclamation divine dans l'homme. Refermer la brèche, en faire un être complet, une espèce de globule du corps social.
Si je réfléchis à ce que vous me dites à partir de certaines données philosophiques, j'en viens à dire ou bien, je pense en particulier à la philosophie de Bergson, ou bien le fait d'être mystique n'est donné qu'à quelques-uns, qu'il appelle les prophètes de l'humanité, ou bien c'est donné à tous les chrétiens qui deviennent du coup les prophètes, mais qui deviennent aussi des êtres à part.
Non.
Qui deviennent des marginaux.
Oh, pas du tout. Pourquoi? Au contraire, puisque c'est eux qui vont amener dans le monde la substance spirituelle qui lui est indispensable pour ne pas se dissoudre. C'est la substance spirituelle qui fait vivre le monde. Le monde entre nous, il est promis à l'évanouissement ou à la perte fatale si il reste livré à ses seules forces. Dieu seul est un agent, si j'ose dire, d'unité et de cohésion pour le monde. Depuis que nous avons tourné le dos au divin, nous voyons bien que le monde se disloque, enfin qu'il vit sous le régime du conflit permanent, de la dialectique la plus meurtrière, en état d'hostilité armée sur tous les plans, entre peuples, entre individus, entre dans les familles, dans les ménages. Il n'y a que conflit. Pourquoi? Parce que le seul agent d'harmonie du monde, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre, il n'y en a jamais eu d'autre.
Mais est-ce que André Frossard serait devenu ou serait en train de devenir théologien?
Non, moi je ne suis pas un théologien. J'ai reçu un coup de foudre spirituel qui a fait que pour moi Dieu seul existe et que le reste n'est qu'hypothèse. Et puis voilà.
Mais enfin, vous exercez quand même un métier, vous êtes journaliste, vous voulez, par votre métier de journaliste, exercer aussi une certaine action sur la société. Vous avez des idées sur ce que doit être l'homme, les relations humaines, etc.
Oui, bien sûr, mais toujours en fonction de ce que j'ai reçu de Dieu. Bien sûr. Alors, il y a deux activités. Il y a l'activité journalistique qui se fait à chaud, comme vous savez, et qui est nécessairement de type critique, parce que la réaction à chaud, toujours critique, elle porte sur ce qui est plutôt négatif. Et puis une action positive, qui est l'action de l'écrivain, qui, lui, a le recul nécessaire et qui peut parler des choses plus posément et plus profondément. Alors, il y a deux types d'activités un peu contraires, mais qui peuvent être complémentaires aussi, mais qui vont les deux dans le même sens. Moi, mon sens critique, je l'exerce à démolir les théories qui me déplaisent.
Mais tout ça, au fond, revient à une question. C'est la question que Kant posait. Que vous est-il permis d'espérer? Qu'est-il permis à André Froissart d'espérer? Quel avenir voit-il pour l'homme et quelle action appelle-t-il pour réaliser cet avenir?
Si vous parlez de ce que je peux espérer moi-même, ça n'a pas d'intérêt parce que je ne m'intéresse pas. Je sais très bien que je ne suis rien parce que je l'ai appris le jour de ma conversion. Alors j'ai plus d'intérêt. Ce qui est important, c'est Dieu, c'est pas moi. Ça, c'est acquis une fois pour toutes. Il n'y a plus d'hésitation sur ce point. Et j'ai déjà écrit quelque part dans un de mes livres que, après celle de sa venue, alors la plus grande grâce que Dieu m'ait faite, c'est de ne rien voir quand je me regarde. Ça, c'est un bénéfice net. Si c'est pour le monde, eh bien, je souhaite ardemment que le monde retrouve le chemin de la prière et de Dieu, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Autrement, il se perdra, mais au sens physique.
C'est pas la politique, à votre avis, qui va sauver le monde. C'est pas l'engagement social.
Mais non, puisqu'il est fait de conflits, puisqu'il agit... Alors, le monde est soumis à une idée... La moitié du monde est soumis à une idéologie de la haine, finalement, et du mensonge, de la dialectique pure, où il n'existe plus que des rapports de force et des relations d'esclaves... totalitarisé, enfin réduit à rien, à déjà la moitié, presque, converti de force à ce genre de vie dérisoire et insupportable. Et puis l'autre moitié, qui s'enfonce dans une autre forme de matérialisme, a perdu de vue ce qui avait fait sa culture, son âme, son esprit, son cœur, et elle s'enfonce, elle aussi, dans le conflit.
C'est donc dire que vous vous opposez à ces théologiens, je reviens encore une fois sur l'Amérique latine, à ces théologiens d'Amérique latine qui voyaient dans l'action politique, dans l'engagement politique, la voie même de l'incarnation de l'Évangile.
C'est parce qu'il leur est arrivé une chose assez facile à décrire, finalement. Le christianisme, dont ils se réclament quand même, repose sur la révélation de Dieu, car nous ne saurions rien de notre destinée, nous chrétiens, nous judéo-chrétiens, si Abraham n'avait pas eu un jour une conversation bizarre avec un être appelé Dieu. C'est la révélation qui est à l'origine de notre foi. Cette révélation se transmet sous forme de mystère. Ce qu'on appelle mystère n'est pas, comme le disaient les catéchismes d'autrefois, une chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est une chose qui permet à l'intelligence de vivre au-dessus de ses moyens. C'est pas du tout pareil. Le mystère, aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, étant donné qu'il n'y a plus de contemplatif de type courant, dans la vie courante, il y en a encore les couvents, il n'y en a plus dans le monde chrétien, ce mystère doit être vécu dans la vie spirituelle, comme il n'y a plus de vie intérieure dans le monde d'aujourd'hui, sauf dans les embouteillages. Là, on a quelques minutes de vie intérieure quand on n'a pas la radio. Comme il n'y a plus de vie intérieure, on se détache du mystère, il devient simplement une chose effectivement incompréhensible. On n'a plus la force, la vigueur intellectuelle ou spirituelle pour le défendre. Alors on déclare que c'est indéfendable, que le rationalisme contemporain, en tout cas, s'y oppose. On abandonne le mystère et l'on déclare que l'on va retrouver Dieu à travers le prochain. Seulement à travers le prochain. Mais il se trouve que depuis 50 ou 100 ans, le prochain, et que le prochain le plus immédiat pour le chrétien, c'est le pauvre, l'humilié, l'offensé, l'opprimé, le faible, etc. Il se trouve que cette sorte de prochain a un défenseur attitré, qui s'est désigné lui-même d'ailleurs, qu'on appelle le marxisme, qui se déclare prêt, lui, à prendre la défense du prochain, le fusil à la main, ce prochain-là, s'il le faut, de sorte que le chrétien, qui s'est détourné du mystère, qui s'est détourné de Dieu, et qui veut passer par le prochain passe presque nécessairement par le marxisme. En tout cas, se voit confronté à non seulement une doctrine, mais un parti qui se déclare, avec quelque apparence de raison, plus efficace que lui dans le domaine de l'action temporelle. Alors ils sont marxisés sans même s'en rendre compte. Ils ne se rendent plus compte que ce marxisme en question repose tout de même sur des données à peu près contraires au christianisme et qui sont tout de même la haine de classe.
Et ça, actuellement, le pape, quand même, a bien voulu marquer les bornes.
Ah, bien sûr, mais c'est son devoir, non ? Il ne va tout de même pas encourager les chrétiens à empoigner des fusils pour se flinguer dans les rues, alors qu'il sait très bien, tout chrétien devrait savoir que le premier coup de fusil est toujours pour Jésus-Christ.
André Froissart, je vous remercie.